Est-ce que certains d'entre vous, une question un peu curieuse, je suis curieux, est-ce que certains ont déjà promené dans les, en vacances en Afrique du Nord et ont baladé dans le désert? Certains l'ont déjà fait? Ouais? Ça vous a plu? Ouais, c'était bien? Quand on voit les gros déserts avec les dunes à perte de vue, bon, faut pas se perdre, hein? Parce que là, si vous êtes sans GPS à l'intérieur, ouais, tant qu'il y a le guide, c'est bon. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Aïe, c'est pas le bon bouton. Donc vous allez voir que moi, je vous ai mis la photo d'un désert. C'est peut-être pas celui que vous avez visité. C'est peut-être pas celui où vous auriez gardé le meilleur souvenir. Parce que volontairement, alors, si vous tapez sur Internet « désert », vous allez en trouver des centaines de photos. Hein. Je n'ai pas choisi celui qui faisait froid dans le dos, mais j'ai choisi un désert parmi tant d'autres. Mais quelque part, les déserts se ressemblent pas mal. Alors, en attendant que le désert revienne, on va lire dans l'Exode, dans vos Bibles, s'il vous plaît, plusieurs passages. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 3 et au verset 1er. Vous connaissez évidemment ce récit, c'est l'histoire de l'appel de Moïse. De quelle façon Dieu l'a appelé? Donc Exode chapitre 3 et à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici !» Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Le texte continue. Moïse discute avec Dieu parce qu'il ne veut pas véritablement y aller. Et Dieu insiste et il va lui expliquer qu'est-ce qu'il devra dire. Verset 18. « Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Amen. » On va un peu plus loin, chapitre 5, verset 1er. Chapitre 5, verset 1er. « Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel ? Pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël, je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. » Et vous savez comment les choses ont continué, ça s'est mal passé et ça a été un bras de fer épouvantable, mais à la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. Et c'est ce qui s'est passé. On va y revenir tout à l'heure, mais on va aller dans le livre d'Osée, le prophète Osée, chapitre 2 et verset 16. Osée, chapitre 2 et verset 16. Après les grands livres prophétiques d'Ésaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel, de Daniel, vous arrivez à Osée, chapitre 2 et verset 16. Dieu parle au prophète, par la bouche du prophète, à Israël, au peuple d'Israël, à l'épouse du prophète. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Et enfin, chapitre 13, toujours du même livre d'Osée, verset 4. Chapitre 13, verset 4. « Et moi, je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais point d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié, etc. etc. » Notez et gardez ce verset 5. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Alors j'ai choisi de vous parler du désert, vous l'avez compris, évidemment, à travers tous les textes que je vous ai lus, mais j'ai choisi de vous parler de l'incontournable désert. L'incontournable désert. Je ne suis pas sûr que ça va vous plaire ce matin, mais bon. L'incontournable désert. Pourquoi donc ? Eh bien parce que le message que nous portons, le message que nous avons reçu dans notre cœur et le message que nous portons, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est le plus beau des messages, non ? Non. Si, c'est le plus beau des messages. On est heureux, on est joyeux, on a été sauvé, on a été délivré. Mais quelle grâce extraordinaire. À chaque fois que vous rendez témoignage, à chaque fois que vous avez l'opportunité de rendre un témoignage, de parler de la grâce de Dieu autour de vous, vous parlez de grâce, vous parlez de paix, vous parlez de joie, vous parlez de guérison, vous parlez de délivrance, vous parlez de bonheur, vous parlez d'avenir, vous parlez de tant de belles choses. On porte un beau message quand même. On porte un beau message. On porte un message qui est joyeux. Et comme le dit un chant qui, celui-là, pour de bon, il a fait son temps, il dit ceci, que la vie est belle quand on est sauvé. C'est vrai, hein ? Ben, des fois, on n'a pas envie de le chanter, hein. Ben non, on n'a pas envie de le chanter, hein. Parce que quand on a mal partout, quand on est devant un cercueil, quand on monte tous les jours à l'hôpital voir un bien-aimé, un conjoint, un enfant, un parent, dans un stade terminal de cancer, on a du mal à se lever le matin en disant que la vie est belle quand on est sauvé. Pourtant, la réalité, c'est ça. Évidemment, que la vie est belle quand on est sauvé, bien-aimé. Parce que, soit dit en passant, il vaut mieux vivre cela en connaissant le Seigneur que sans le connaître. Ben ça, il n'y a pas photo. C'est évident que c'est mieux quand on connaît le Seigneur. Alors, l'expérience que l'on a faite quand même du salut, il faut s'en souvenir, ça se traduit par un aller simple, heureusement d'ailleurs. Avec Dieu, nous sommes appelés des ténèbres à son admirable lumière, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Il ne s'agit pas de faire des allers-retours. C'est-à-dire que la vie, ce ne sera pas tantôt le ciel, tantôt l'enfer, tantôt le paradis, tantôt l'antichambre de la mort ou que sais-je encore, et uniquement une vallée d'ombre mortelle. Non, ce ne sera pas que ça. Non, c'est un aller simple. Même s'il y a des montagnes, on est bien placé pour savoir que derrière toute montagne, il y a une vallée, forcément. Pour atteindre le sommet d'après, on descendra, mais on remontera. On sait cela. La réalité, la vérité, c'est que par la grâce de Dieu, nous sommes engagés dans un aller simple. Nous avons été arrachés aux ténèbres, arrachés à l'enfer, arrachés aux ténèbres, et c'est en direction d'une admirable lumière que nous allons, et béni soit Dieu, parce que le défi pour nous reste toujours le même, nous avons été prédestinés à servir à la louange de sa gloire. Alors, dans des mots peut-être un peu plus actuels, nous pourrions dire, nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire. Amen. Destiné à vivre pour célébrer sa gloire. Alors j'en reviens au livre d'Osée. Le livre d'Osée, si vous le lisez, si vous regardez un petit peu dans les détails, ce qui s'est passé, vous allez très certainement être surpris. Parce que dans le livre d'Osée, Dieu lui-même commandera à Osée de vivre une expérience assez troublante. C'est-à-dire que cet homme est célibataire et Dieu va lui demander de se marier. Donc il va choisir une femme. Et quand il va choisir cette femme, Dieu va lui dire « Tu vas prendre une femme qui est une femme prostituée et tu vas te marier avec elle. » C'est déjà assez difficile à comprendre, pas forcément à accepter, mais à comprendre par rapport au fait que Dieu est un Dieu de sainteté, Dieu est un Dieu pur, sans tâche. Et puis, il va se marier et puis au bout d'un certain temps, cette femme semble, d'après plusieurs commentateurs, ça peut varier, mais on reste sur cette lignée-là. Cette femme semble se détourner de son mari et commettre à nouveau ses infidélités. Alors il y a évidemment une double lecture. Il y a ce qui est humain et puis il y a ce qui est spirituel. Mon peuple, Israël, m'a abandonné pour servir des idoles, comme une femme abandonnerait son mari pour le tromper avec un autre homme, par exemple. Donc c'est ça l'image qui ressort de cela et la leçon qu'il faut comprendre. Mais vous avez vu avec moi que Dieu va faire une chose, il va volontairement attirer cette femme au désert. Il va volontairement l'emmener dans le désert. Mais pourquoi donc ? Et là encore, je repasse sur ce niveau qui est plus symbolique et imagé. Parce que cette femme qui semble profiter de la vie à tout craint, elle vit, paraît-il, ou elle le montre ainsi, d'étourdissement, tout va bien, je passe d'un homme à un autre homme, tout va bien. Un beau jour, la chute est terrible. Elle se retrouve dans une grande angoisse, elle se retrouve sans rien, plus personne autour d'elle, dans une grande solitude, et elle se sent complètement désemparée. D'une certaine manière, Dieu, à un moment donné, arrête sa course folle et l'amène dans le désert, où là, il n'y a plus personne, où là, c'est le silence complet, où là, elle est prise d'angoisse. Et regardez ce qui va se passer, cette femme reviendra vers son mari, Dieu demandera au mari de pardonner, il la reprendra, et la leçon était celle-ci, « Voilà ce que j'ai fait avec mon peuple d'Israël. Je l'ai aimé comme une fiancée, je me suis attaché à lui, il m'a abandonné, il s'est prostitué avec des faux dieux, mais je l'aime encore, je l'ai attiré au désert, il a mangé son pain noir, et maintenant il revient, eh bien je l'aime encore et je lui pardonne. » Et cette femme reviendra. Et au chapitre 13, vous avez vu hein, quelle a été la leçon. « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu ne connais point d'autre Dieu que moi. Je t'ai connu dans le désert. » J'en reviens à l'histoire de Moïse, parce qu'elles sont pas similaires, mais elles pourraient se retrouver, ces deux leçons. Et vous avez remarqué que Moïse, quand il rencontre Dieu, il est où ? Il est dans un désert. Exactement. Et plus tard, quand il va sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, ils vont rester 40 ans dans le désert. Voilà pourquoi je parle d'incontournable désert. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que les choix de Dieu sont quelquefois déroutants, pour ne pas dire repoussants. On n'a pas du tout envie de vivre des choses comme cela. Mais pourrait-on faire sans un passage au désert ? Pourrait-on vivre notre vie chrétienne ? Pourrait-on servir à la gloire, puisque nous sommes destinés à cela, servir à célébrer sa gloire ? Pourrions-nous réellement le faire sans un passage dans un désert, quel qu'il soit ? Je crains que non. Et je suis même sûr que non. Je crains parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Mais je suis sûr que c'est ainsi. On ne peut pas faire autrement. Et allez dans l'Écriture. Regardez tous ces hommes de Dieu dans l'Écriture. Trouvez-moi un qui n'a jamais traversé un désert. Trouvez-moi un. Si vous en trouvez un, vous êtes fort. Mais je crains que vous n'en trouviez pas là aussi. Tout le monde a connu le désert. Alors, c'est quelque chose d'excessivement pénible à comprendre et à accepter. Mais je crois que si nous ne voulons pas aller dans le désert, c'est Dieu qui va vous y pousser. De toutes les manières. Je comprends bien qu'on ne va pas sauter fou de joie à pieds joints en disant « chouette, je rentre dans le désert, c'est formidable ». Évidemment pas, mais ça va arriver, c'est peut-être certainement déjà arrivé, et vous avez des leçons, vous avez retiré beaucoup de leçons de cela. Il y a trois choses en général, dans le désert, on va dire pour un citadin. Le citadin va découvrir trois choses dans le désert qui ne sont qu'une réalité en surface. Hein. Là, en profondeur, ce n'est pas du tout comme ça. Mais en surface, ce qui risque de frapper le visiteur dans le désert, c'est le silence. Silence. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la photo. Mais au moins, on sait qu'il y a quelqu'un à cet endroit-là, au moins celui qui a pris la photo. Hein. À moins que ce soit un drone. Mais si le gars il se dit « il faut que j'aille au bout de la route », il risque de trouver le temps long, peut-être un peu silencieux quand même. Sauf que, il paraît que le désert est tout sauf silencieux. Il y a énormément de bruit, parce qu'il y a déjà pas mal d'animaux qui vivent dans le désert, même si on ne les voit pas. Il y a de la compagnie, finalement, c'est un deuxième point, même si on ne les voit pas. Et dans le fond, c'est peut-être parce qu'il y a le silence qu'on entendra ces faibles bruits. Quand il y a du bruit, les faibles bruits, on ne les entend pas. Normalement, en dessous d'un certain nombre de décibels, on n'entend plus, parce qu'il y a trop de vacarme, il y a trop de bruit. Je suis tombé par hasard sur une petite fille qui était filmée. Alors, elle était exceptionnelle, cette petite. Je ne sais pas, elle devait avoir entre 6 et 8 ans. 6 et 8 ans. Et elle expliquait le corps humain. C'est-à-dire qu'il y avait une adulte à côté d'elle avec des grands panneaux du genre le cerveau. Et elle vous explique comme les médecins pourraient le faire. Elle vous explique, mais ça ne s'arrête pas. Le cerveau, le fonctionnement, etc. Les neurones, etc. Alors ils sont tous... ils sourient tous sur le plateau en disant « mais ce n'est pas possible qu'elle ait une connaissance comme ça ». Pareil avec les muscles. Elle montre, on lui montre le système musculaire. Alors, le système musculaire est confectionné. Mais elle parle comme ça. C'est assez incroyable de voir cela. Et d'ailleurs, elle est même rigolote, cette petite, parce qu'elle dit finalement, les grands, les adultes, les forts, ils n'ont pas plus de muscles que moi. Hein. Moi, j'en ai autant qu'eux. Hein. Sauf qu'eux, ils ont fait un peu plus de sport, ils sont un peu plus grands, donc ça se voit mieux, mais ils ont les mêmes que moi ici. C'est rigolo pour une petite de 6 ans, 6 ou 8 ans, quoi. Et puis, on arrive au système digestif. C'est ça qui m'a interpellé. Système digestif. Et elle explique le système digestif. Alors là, vous déprimez, hein, évidemment, parce qu'elle vous raconte tout. Et elle dit, en fait, à l'intérieur de... Alors, je ne sais pas si elle a dit l'estomac, parce que moi, je ne retiens pas bien. Elle a dit, mais à l'intérieur, ça gargouille tout le temps. Elle le disait avec ses mots aussi. Hein, ça gargouille tout le temps, ça fait du bruit, mais c'est tout à fait normal. Quelquefois, on entend du bruit, on dit, ouh là là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais non. C'est juste que ça résonne parce que l'estomac est vide, parce que ça fait toujours le même bruit quand l'estomac est plein. Alors, je ne sais pas jusqu'où c'était totalement exact, mais j'ai bien aimé l'image. Quand c'est vide, le moindre bruit résonne. Quand c'est plein, il peut y avoir des tas de bruits, ça ne nous gêne pas, on n'entend pas. Dans le désert, je pense qu'il y a des bruits insoupçonnés. Et quelquefois, Dieu nous fera passer dans un chemin désertique. Vous savez pourquoi ? Pour qu'on puisse au moins savoir, connaître et entendre qu'il peut soupirer et nous dire des choses comme un murmure. Souvenez l'expérience d'Élie, le prophète Élie, qui à un moment donné s'est retrouvé pas bien moralement, une forme de déprime. Il s'enfuit, il veut mourir. On y reviendra d'ailleurs un autre dimanche. Il veut mourir. Et donc Dieu a dit, hors de question, c'est pas le moment, je vais te parler. Alors il va se mettre au fond d'une grotte. Mais qu'est-ce que tu fais là, Élie ? Je suis le seul à avoir obéi à tes commandements, tous t'ont abandonné. Et Dieu lui dira, non, non, c'est faux, il y en a d'autres comme toi. Mais bref, je vais te parler. Et avant que l'Éternel ne passe, je vais te montrer ma gloire. Avant que l'Éternel ne passe, il y a eu un vent impétueux, l'Éternel n'était pas dans le vent. Il y a eu un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Il y a eu un tremblement de terre, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et il y a eu un murmure doux et léger. Et là, Élie a compris que c'était Dieu. C'est assez surprenant parce que c'est totalement à l'opposé du caractère d'Élie, manifestement. Ces trois signes initiaux révèlent le tempérament fougueux, tempétueux d'Élie. Mais là, un murmure doux et léger, il n'avait pas l'habitude. Le mont Carmel, ça ne s'est pas fait en douceur, hein, le mont Carmel. Donc, on voit bien un homme qui n'avait peut-être pas l'habitude de ces murmures doux et légers. Et Dieu a décidé de lui parler comme cela. Bien-aimé, je crois que ça fait du bien d'aller dans le désert quelquefois, parce que je suis sûr qu'on a raté des dizaines d'occasions d'entendre la voix de Dieu, parce qu'on était pris par le brouhaha de la vie, on était pris par les difficultés, les peines, et on n'entendait pas ce que Dieu nous disait. D'ailleurs, si vous voulez entendre ce que Dieu veut vous dire quand il parle doucement, taisez-vous. Parce que si vous ne faites que parler, vous ne l'entendrez pas. Taisez-vous déjà. Donc voyez, faire silence, ça peut avoir du bon. Et puis, dans le désert, même s'il y a de la roche, etc., on a l'impression que c'est vide. Je n'ai pas pris de photo, mais c'est le Sahara, ces déserts de dunes sableuses, on a l'impression que c'est vide. Ben, c'est tout sauf vide. D'ailleurs, il y a certains endroits, c'est arrivé ces dernières semaines, certains endroits dans le monde qui ressemblent à ça. Alors, il n'y a même pas d'herbe sur les côtés, hein, c'est de la caillasse comme le chemin. Et puis, à certaines occasions, grâce au phénomène El Niño ou des choses comme cela, il y a de l'humidité qui arrive. Dans une nuit, le lendemain, il y a des centaines de milliers de fleurs. C'est impressionnant, ça ne va pas durer longtemps avec le soleil. Évidemment, il fait 50 à l'ombre. Mais c'est surprenant parce qu'on ne voit rien, mais tout y est, sauf qu'on ne voit rien. Quelquefois, dans ce parcours que l'on a fait, on a eu l'impression que c'était assez vide et autour de nous, on ne voyait pas d'où viendrait le secours. Alors, dans le désert, Dieu peut changer notre regard et cette perception du désert, et peut-être qu'il faudrait s'attacher aux détails. Vous savez, quand ça ne va pas, on s'attache aux détails, hein ? Non ? Je me souviens de cette dame que l'on a suivie qui est tombée gravement malade et est tombée dans le coma. Et ça a duré 10 jours. Elle en est sortie, grâce à Dieu. Mais tous les jours, sa famille était là, son mari était là, du matin au soir, tous les jours. Et évidemment, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre ? Il était là et il scrutait le corps, le visage de son épouse, se disant, il va y avoir quelque chose, une réaction, le cerveau va se remettre en route, elle va se réveiller. Et quelquefois, il semblait content et il allait voir les médecins. Mais il l'a fait 100 fois. Jusqu'à ce que les médecins lui disent, mais non. C'est nerveux. Et il semblait voir une paupière bouger. Il semblait voir une main se contracter. Donc, il croyait. Mais c'était juste le corps qui... Il n'y avait rien de spécial. Mais quand ça ne va pas, on s'attache aux détails, n'est-ce pas ? On s'attache aux détails. On voudrait que les petits détails révèlent un espoir, que quelque chose va changer, qu'il va enfin se passer quelque chose. Alors, oui, c'est bon de s'attacher aux détails. Après, ce n'est pas le détail qui fait tout. Mais je crois que dans notre marche avec Dieu, il est évident que notre vie chrétienne est faite d'une multitude de petits détails et de temps en temps, de gros événements. Mais la vie est faite en général d'une multitude de petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu pourra certainement lui en confier des grandes. Mais bizarrement, nous, on veut toujours faire pas un saut de puce, mais un saut de géant. Et on voudrait passer de la conversion aux grandes choses. C'est pas vrai ? Non, vous ne croyez pas ? Si, si, c'est toujours comme ça. Si on pouvait passer directement aux grandes choses en évitant les petites, ce serait pas mal. Eh bien, on est obligé d'y passer, c'est comme ça, mais on apprend à s'attacher aux détails. Et puis, dans le désert, il y a une forme de solitude, un peu comme maintenant, parce que je vous sens figé, là. Une forme de solitude dans le désert. Hein. Jean-Baptiste, il était seul dans le désert, il criait dans le désert, une voix criait dans le désert, le royaume des cieux est proche. Mais dans le fond, si vous êtes seul, vraiment seul, vous allez certainement avoir envie de créer du lien, hein. Vous connaissez, bon, c'est un roman, vous connaissez l'histoire du petit prince, Saint-Exupéry. Il a cherché à créer du lien partout où il a été, sur les planètes où il s'est promené. Bon, c'est une histoire, c'est un roman, mais on n'est pas fait pour vivre seul. On cherche à créer du lien. Eh bien, quand on se retrouve seul, c'est peut-être là qu'on va essayer enfin. On va essayer de créer du lien. Le lien, on l'a tous les dimanches avec Dieu. On l'a tous les jours dans notre relation personnelle avec Dieu, plus ou moins. Mais c'est évident que plus on crée du lien avec Dieu, et mieux notre relation se porte. La palisse n'aurait pas dit mieux, hein. C'est évident. Et pourtant, je m'aperçois que plus le temps passe, et moins on a du temps pour créer du lien. Alors, puisque c'est comme ça, bien, Dieu vous envoie dans le désert. Et dans le désert, vous serez bien seul, où ce sera le silence total. Vous aurez l'impression que vous êtes dans un espèce de vide spirituel. eh bien là, Dieu va créer du lien, recréer du lien, et vous allez vous rendre compte que c'est lui qui a permis le désert, que c'est lui qui a voulu le désert, et que le désert, d'une certaine manière, était totalement incontournable. Alors, pourrions-nous y échapper ? Devrions-nous y échapper ? Il ne me semble pas, ça me paraît incontournable. Je n'ai pas la zapette, donc il faudrait passer juste la diapo d'après. On va parler du désert de Madian, parce que c'est le désert de Moïse. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas été du côté de Madian. C'est quand même plus loin que le pays d'Israël. On ne voit pas bien, je suis désolé, mais ça ressemble à ça, quoi. C'est que de la caillasse, des cailloux, des cailloux, des montagnes. Vous savez que Moïse a passé grosso modo 40 ans dans un univers comme ça. Après avoir passé 40 ans, vous savez où ? Dans le palais, quasiment 40 ans, dans le palais du Pharaon. Franchement, au bout de 3 jours, moi je veux retourner en arrière. Hein. Franchement, de la caillasse. La particularité du désert, semble-t-il, c'est qu'il fait très chaud le jour, très froid la nuit. Ça peut descendre à zéro sans problème. Alors évidemment, il a fait sa vie. Hein. Il a fui l'Égypte, vous le savez, à 40 ans. Et il y est resté jusqu'à ses 80 ans dans ce désert-là, le désert de Madian. Il s'est marié, il a eu des enfants, il a travaillé avec son beau-père. Je note que le désert de Madian a été pour lui une terre d'exil. Mais ça a été un lieu de refuge. Si vous regardez une carte, il part de l'Égypte. Il va traverser tout le Sinaï, il va traverser le pays d'Israël et le pays de Madian, c'est encore plus loin. Donc, il a été loin quand même. Hein. Donc, il a dû faire ce trajet-là pour être hors de portée du Pharaon qui voulait le mettre à mort parce qu'il avait tué un Égyptien. Bref, ça a été une histoire plutôt sombre. Eh bien, voyez-vous, cette terre d'exil semble, quand on voit la suite, semble avoir été un lieu de refuge, mais aussi une terre d'apprentissage. C'est-à-dire que pendant 40 ans, Dieu va le former. En fait, quand à 40 ans, il a voulu délivrer son peuple, quand lui, il était prêt, eh bien, ce n'était pas le temps de Dieu. Il se croyait prêt, mais il ne l'était pas. Et quand il ne veut absolument plus rien faire, Dieu lui dit, ben maintenant, tu es prêt, tu peux y aller. Et c'est toute la rencontre qu'on a lue quand Dieu l'interpelle avec le buisson ardent et que Moïse dira, non, tu vas choisir quelqu'un d'autre. Il y a 40 ans, j'ai voulu y aller. Il y a 40 ans, j'ai voulu le faire. Il y a 40 ans, j'ai été chassé. J'ai dû m'enfuir. Ça fait 40 ans que je vis dans le désert, solitude. On n'a pas l'impression que Dieu lui ait beaucoup parlé dans ces 40 ans. Donc, très seul, tu ne t'es pas occupé de moi. Tu m'as laissé tomber. Enfin, on peut tout imaginer. Tout ce que l'on dit quand ça ne va pas, d'ailleurs. Hein. On est prêt à imaginer que Dieu nous a oubliés. Mais ça a été choisi de Dieu. Ça a été 40 ans de brisement et ça a été 40 ans pour construire un autre Moïse. Vous voulez que je vous dise, quelle que soit la durée du désert, et je prie et je vous souhaite que ça ne dure jamais 40 ans, jamais. Mais quel que soit le désert, s'il devait durer 4 jours, 4 semaines, 4 ans, allez savoir. Je prie que ces jours-là, ces moments-là, vous puissiez les vivre effectivement comme des temps de brisement, parce que ça va vous amener à ça, c'est évident. Le désert, c'est la maladie, l'épreuve, les souffrances, c'est ça le désert. Hein. C'est le parcours de Job, c'est ça le désert. Ça peut être vraiment brisant, mais je crois que ça peut construire quelqu'un d'autre. Et vous pouvez devenir quelqu'un d'autre. Et vous devez devenir quelqu'un d'autre, parce que je vous rappelle quand même que la volonté de Dieu, c'est ceci. Vous êtes destiné à vivre pour célébrer sa gloire. Vous êtes destiné à vivre jusqu'à la fin pour célébrer sa gloire. C'est un aller simple. Il vous a arraché des ténèbres, pas pour vous contenter uniquement sur la terre, pas pour vous rendre simplement très joyeux, très riche, en parfaite santé sur la terre, mais pour le ciel, pour l'éternité. Alors on ne peut pas éviter cela, parce que c'est dans ces moments difficiles que l'on apprend le mieux, évidemment, pour construire quelqu'un d'autre. Alors, au temps de Dieu, il va être utile. La mission de Moïse, elle est toute simple. On l'a lu au chapitre 3. Tu prends le peuple de l'Égypte et tu l'emmènes, on l'a lu ensemble, dans un bon et beau pays. Un pays où coule le lait et le miel, la terre promise, le pays de Canaan. Jusque-là, rien ne m'avait interpellé. Jusqu'au moment où, en relisant ces textes, je me dis, tiens. Quand Dieu dit à Moïse, tu vas emmener le peuple de ce point A jusque-là, départ, arrivée, mais entre les deux, tu ne prends pas l'avion, entre les deux, tu vas marcher. Et vous avez remarqué ce que Moïse est obligé de dire à Pharaon. Il ne va pas lui dire, évidemment, on va partir de tel endroit et on va s'en aller dans un autre pays. Non. Il est obligé de dire à Pharaon, c'est ça sa mission, j'emmène le peuple dans le désert pour qu'il célèbre Dieu dans le désert. Je prends le peuple et je l'emmène dans le désert. Quand il va se tourner vers les anciens, son frère Aaron et d'autres, il va expliquer cela. Il va leur dire, Dieu m'a dit de venir vous prendre pour vous emmener dans un bon et beau pays où coule le lait et le miel, mais on va d'abord aller trouver le Pharaon et on va lui dire, on va demander l'autorisation d'aller 3 jours de marche dans le désert. Et quand vous relisez le texte, vous apercevez que le peuple, finalement, et c'était là la mission de Moïse malgré tout, c'était une belle mission, puisqu'il fallait aller, quel magnifique projet, dans un beau pays, mais il faudra passer par le désert. Moïse, il en vient du désert. Il sait ce que c'est le désert. Alors déjà, faire 3 journées de marche avec des adultes, des enfants, des personnes âgées et tout le bétail, enfin, il veut partir avec tout, hein, ça va être une sacrée organisation, ça va être épouvantable. 3 jours de marche et on célèbre Dieu dans le désert. Vous savez que Pharaon n'a pas voulu. Pharaon a endurci son cœur et finalement, ça s'est quand même passé comme ça. Dès le départ, et on passe à la diapo d'après, s'il vous plaît, c'est le désert du Sinaï. Je ne sais pas s'il est un peu plus visible. Désert du Sinaï. Bon, ça ressemble aux autres déserts, hein, de la caillasse, de la terre, de la poussière. Voilà, ce n'est pas très enviant. Le désert d'Israël, dès le départ, je crois que les choses ont été claires. Dès le départ. Dès le départ, les choses ont été claires. Pourtant, le nombre de fois où Israël va se plaindre. D'ailleurs, dès le départ, une fois qu'on a traversé la mer Rouge, le peuple a commencé à se plaindre. On a soif, désert de Paran, désert de Sin, désert. Ils ont traversé des déserts les uns après les autres. Voilà, il fallait en traverser plusieurs. Ils sont vraiment, vraiment malheureux. Ils disent, on n'en peut plus du désert. C'est un affreux désert. C'est cruel, le désert. On en a marre. Il faut que ça s'arrête. Ils n'ont pas compris qu'ils devaient passer par le désert. Soit dit en passant, les choses étaient claires. On l'a lu ensemble hein, au chapitre 5 de l'Exode. Ils se rendent auprès de Pharaon en disant, nous devons partir pour aller célébrer au désert une fête en mon honneur. Vous vous souvenez ce que Dieu avait dit dans le livre du prophète Osée ? Je t'ai connu où ? Dans le désert. Et là, Moïse dit, on va servir Dieu dans le désert. Pouviez-vous imaginer que s'il fallait passer par le désert, vous alliez quand même servir Dieu ? Vous, votre seule envie, comme moi, c'est de s'échapper le plus vite possible du désert. On va taper un sprint. Plus vite on en sort, mieux c'est. On servira Dieu bien mieux après. Mais c'est pas un vide en soi, spirituellement parlant, le désert. Si vous n'apprenez rien, si vous ne servez pas Dieu dans le désert, c'est triste. Parce qu'il faut servir Dieu dans le désert. Et Dieu vous connaîtra, et Dieu connaîtra la détermination de votre engagement, et vous connaîtrez Dieu et sa fidélité et sa bonté précisément dans le désert. Précisément dans le désert. C'est ce qu'ils ont dû vivre à ce moment-là, et ça a été quand même assez cruel, parce que, d'une certaine manière, il faudra passer le désert, et Moïse va envoyer des espions, Josué, Caleb et 10 autres avec, il va envoyer des espions en terre promise et quand ils reviennent, c'est là, patatras, que tout le projet se casse la figure parce qu'ils vont douter, ils vont avoir peur et à cause de cela, ils vont y rester pratiquement 40 ans. Mais au départ, le désert était prévu pour grosso modo 3 mois. C'était 3 mois. N'empêche que c'était le désert quand même, vous comprenez ? C'était quand même le désert. Et parce qu'ils n'ont pas saisi que derrière le désert, il y avait une promesse qui était pour eux, malheureusement, l'incrédulité les a fait mourir dans le désert. Donc, vous voyez, le désert, on ne peut pas l'éviter. Mais soit on le passe en comptant sur l'aide de Dieu, soit on s'endurcit, et on risquerait même d'y mourir dans le désert. Et ce serait dommage, parce que ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas ce que Dieu avait choisi. Soit, quand Moïse va vers Pharaon, il lui dit, on doit aller dans le désert servir Dieu, on doit aller célébrer Dieu dans le désert avec des sacrifices. Je veux dire, tout y est pour servir Dieu. On doit aller dans le désert, on doit faire plusieurs journées de marche, on doit célébrer Dieu dans le désert, tu dois nous laisser aller. Alors, soit c'est un message de diversion à l'attention du Pharaon, soit c'est plutôt, me semble-t-il, un autre message, une précision qui est plutôt adressée aux anciens d'Israël. Vous entendez bien ce que je suis en train de dire, là, on s'en va dans le désert. Hein. On s'en va dans le désert. Alors, à qui était adressé ce message ? Je vous laisse choisir, ou à Pharaon, ou à tout le peuple d'Israël. Mais la réalité, c'est que le désert était incontournable. Fallait y aller dans le désert. Ce n'était pas possible autrement. Je vais conclure avec plusieurs textes, et vous allez comprendre cette conclusion. Diapo d'après. La conclusion, c'est que Moïse avait à apprendre sur Dieu. Israël a eu à apprendre sur Dieu. Et bien aimé, nous avons à apprendre sur Dieu. Alors si Moïse a dû y passer 40 ans dans le désert avant d'être prêt alors qu'il ne voulait plus, et si Israël aurait dû y passer quelques mois dans ce désert, mais malheureusement il y a passé trop longtemps, bien trop longtemps, c'est qu'ils avaient à apprendre sur Dieu, de Dieu, sur Dieu. Ils avaient à apprendre. Et bien aimé, on n'y échappera pas. Mais ce n'est pas grave. Si Dieu est pour nous, que dit le verset ? Ouais. Qui sera contre nous ? Si Dieu est avec nous, si Dieu justifie, si Dieu relève, qui accusera ? Qui condamnera ? Qui écrasera l'enfant de Dieu ? L'Église ? Non, elle tient debout, il n'y a aucun problème. Quelques textes, c'est la dernière diapo, et on va les lire en entier, ils ne sont pas en entier sur l'écran, mais dans le livre du Deutéronome, Moïse va rappeler ces choses-là au peuple. C'était important pour eux de l'entendre cela. Israël avait beaucoup à apprendre sur la bonté de Dieu, mais aussi sur, vous l'avez lu avant, hein, sur sa sainteté, sur sa gloire, sur ses exigences. C'est fou, hein, parce qu'on a l'impression que Dieu nous doit beaucoup de choses. En fait, on est très exigeant dans notre vie chrétienne, c'est pas vrai ? Parce qu'on a envie que ça aille. C'est pas possible que je m'en sorte pas. Mais qu'est-ce que tu fais là ? On est très exigeant, on demande beaucoup de choses à Dieu. Remarquez, on a le droit, hein, puisque Dieu nous a dit « Tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai ». Donc, gloire à Dieu, il nous permet de le faire, il nous donne l'opportunité de le faire. Mais on est très exigeant pour notre vie chrétienne. Le standard, il est là, il ne peut pas être là, ce n'est pas possible. On demande beaucoup de choses à Dieu, et béni soit Dieu. Mais Dieu est très exigeant. Quant à ce qu'il attend de nous aussi, sa sainteté, ça ne doit pas que nous effleurer, hein. Sa gloire. D'ailleurs, quand Moïse voudra voir la gloire de Dieu, Dieu dira, je vais passer devant toi et je passerai devant toi ma bonté, ma bienveillance, etc. Voilà, c'est ça que je vais faire passer devant toi. La gloire de Dieu, gloire extraordinaire de Dieu, gloire magnifique de Dieu. Alors, bien-aimé, il est évident qu'on a beaucoup à apprendre là-dessus et on ne peut pas échapper au désert. Mais regardez ce qu'il est dit, parce que selon vos choix, le voyage, vous l'avez compris, sera plus ou moins long. La volonté de Dieu, c'est d'apprendre et de servir Dieu même dans le désert. Deutéronome chapitre 2, verset 7, c'est le témoignage même de Dieu. « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert, voilà 40 années que l'Éternel ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. » Même leurs chaussures ne s'usaient pas, vous en souvenez, hein ? Leurs chaussures ne s'usaient pas, leurs vêtements non plus. Assez exceptionnel ce qui s'est passé. Un peu plus loin, au chapitre 8 et au verset 15, « C'est lui qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau. Et c'est lui qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur et qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur « Ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Et au chapitre 32, enfin, verset 7, chapitre 32, verset 7, « Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il a trouvé, dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Amen. N'est-ce pas merveilleux ce que Dieu a fait pour ses enfants ? N'est-ce pas merveilleux ce que Dieu a promis et ce que Dieu a accompli ? Alors, bien-aimés, c'est évident qu'on n'échappera pas au désert, il est incontournable, mais béni soit Dieu, parce que nous en sortirons. C'est la volonté de Dieu, nous en sortirons. Je vous souhaite un voyage de 3 mois plutôt que de 40 ans. Ça ne tient qu'à vous. Évidemment, ça ne tient qu'à vous. Peut-être qu'il ressemblera à ce désert de Moïse un temps, parce que vous êtes dur, parce que vous voulez faire à votre manière, à votre façon. Et ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Et peut-être que le jour où vous direz « j'en ai marre, j'abandonne tout », c'est là où Dieu dira « il est fin prêt, il est fin prêt maintenant ». Qu'importe les circonstances et situations qu'il nous faut vivre, frères et sœurs, dans le désert, nous sommes là pour servir à célébrer sa gloire. Même là, nous sommes ici précisément dans un lieu désert, quand cela nous arrive, pour servir à la louange de sa gloire, servir à célébrer sa gloire. Bien-aimés, que le Seigneur vous encourage. Si vous l'avez connu, le désert, vous savez ce que ça signifie. Et si vous ne l'avez pas connu, priez, 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 avant d'entrer dans cette solitude, avant d'entrer dans ces lieux où on se sent bien isolé. Mais il y a des choses à découvrir, des choses extraordinaires à découvrir dans les déserts. Vous allez entendre les soupirs de Dieu. Vous allez entendre ces simples chuchotements et votre relation avec Dieu va grandir. Et vous serez à même, vous serez beaucoup plus en phase avec la volonté de Dieu et vous serez exactement comme Dieu le veut. Alors que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous encourage. Israël devait aller dans le désert. Il n'a pas voulu l'entendre, mais il devait y passer. Nous, nous l'avons bien entendu et nous disons « Seigneur, glorifie ton nom ». En tout temps et en toutes circonstances. Amen.